There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre. Pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique, ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Potpourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette? With butter or marmalade?
En Amérique, on peut entendre les langues autochtones.
L'anglais, l'espagnol, le portugais,
le créole
et évidemment le français. Tout comme son continent, la francophonie des Amériques est belle, vaste et diversifiée.
Saviez-vous que partout au Canada, on peut étudier en français de la garderie à l'université?
On retrouve d'ailleurs plus de 20 universités francophones d'un océan à l'autre.
La culture francophone y est aussi célébrée dans de nombreuses fêtes et festivals,
même jusqu'à Saint-Clair et Miquelon.
Au 19e siècle, les Canadiens français ont traversé la frontière du Sud en si grand nombre qu'on y retrouve aujourd'hui des millions de leurs descendants.
Il y a plusieurs villes majoritairement francophones en Nouvelle-Angleterre.
On redécouvre la valeur économique du français en Louisiane et on retrouve de nombreuses populations francophones à New York, en Floride et jusqu'en Californie.
D'est en ouest, le français résonne.
Dans les Caraïbes, c'est plus de 9 millions de personnes qui s'expriment en français. Les festivités culturelles sont nombreuses, soulignant à la fois leur héritage français et créole.
Plus au sud, en Amérique latine, savez-vous que le français est la deuxième langue étrangère la plus étudiée? Son enseignement est obligatoire au Costa Rica, alors que c'est au Brésil qu'on retrouve le plus grand nombre de francophones.
Au-delà de l'éducation et de la culture, il y a des commerces, entrepreneurs, restaurateurs et industries qui offrent des services en français d'un bout à l'autre des Amériques.
Mais la francophonie des Amériques a encore des défis à relever.
Partout, la demande pour apprendre le français dépasse l'heure.
On manque d'écoles francophones, d'écoles d'immersion et aussi de professeurs.
Ensemble, communiquons,
vivons, travaillons pour faire rayonner cette francophonie des Amériques.
Nous sommes Québécois, Acadiens,
Franco-Tico,
Guadeloupéens,
Franco-Ontariens, Mexicains.
Nous sommes la francophonie.
Bonjour, je m'appelle Eddie King et je suis très heureux d'être le porte-parole des rendez-vous de la francophonie. Préparez-vous à célébrer parce que cette année, les rendez-vous fêtent leur 25e anniversaire. C'est une année toute spéciale parce qu'on fête aussi le 10e anniversaire de la tournée Juste pour rire, dont je serai l'animateur. On en profite pour lancer le nouveau concours d'humoristes en herbe, les As du rire. Visitez dès maintenant le rvf.ca. Vous y trouverez les détails du concours et tout ce que les rendez-vous vous proposent, dont la programmation des activités spéciales qui se dérouleront du 1er au 31 mars.
Et oui, laissez-vous tenter, préparez-vous, madame, monsieur, pour un mois de mars, un mois de la francophonie, au rythme du groupe mythique La Compagnie Créole, le 28 mars 2023, à l'Auditorium Saint-Frère-André, à 19h30, un concert unique, un événement de francophonie en fête. Tirage au sort, des billets, retrouvez les détails sur popourichaud.com. Et merci à Francophonie en fête et tous nos partenaires qui nous soutiennent.
Bonjour mes amis, je m'appelle Zachary Richard et je vous salue de la Louisiane. Et je vous encourage de célébrer notre héritage francophone pendant ce mois de la francophonie. Ici en Amérique du Nord, de parler français n'est pas seulement un engagement envers le passé, mais surtout vers l'avenir. De parler une langue, ce n'est pas tout simplement une façon de communiquer, mais c'est aussi une façon de voir le monde. Notre héritage francophone n'est pas seulement ce riche parler, mais c'est aussi des valeurs de tolérance, d'ouverture et d'inclusion. Soyons fiers de notre héritage francophone et faisons, comme disait Senghor, de tisser cet humanisme autour de la terre. Merci.
Dimanche 12 mars 2023, mois de la francophonie sous le thème Célébration. Bonjour et bienvenue à la deuxième émission du mois de la francophonie sur CUT 89,5 FM Toronto. Cette émission réalisée en partenariat avec RFI, France 24, TV5 Monde, France Inter, Ciné Franco, LACFAS à Toronto,
Le Crépeau, les éditions Prise de Parole, le Festival Théâtre à Communauté des Noirs de Montréal et la Société d'Histoire de Toronto. L'ingénieur du son DJ Devera et les DJ français Frank Fuse. Production animation Eric Kader qui vous accompagne depuis plus de 35 ans. Et pour nous écouter où que vous soyez dans le monde, une seule adresse, popourishow.com. Et oui, chaque semaine, Popourishow vous propose un voyage à travers les francophonies. Du Québec au Sénégal, en passant par la Louisiane, découvrez comment est née la francophonie institutionnelle, ses objectifs et la diversité culturelle des pays francophones à travers le monde. Chaque dimanche, découvrez un de nos artistes préférés de la francophonie. Coup de cœur dont la chanson a été reprise ou remixée par plusieurs artistes dans le monde. Et aujourd'hui, place à Zachary Richard de la Louisiane, militant francophone, auteur, compositeur, chanteur, poète, accordéoniste, interprète. Aussi au programme L'humeur de Linda, l'expression du jour, confrontation. Côté cinéma, Film We Like et le meilleur site de cinéma en ligne, Mubi, sont ravis d'annoncer leur collaboration pour présenter Les 5 Diables, un conte d'apprentissage unique, une histoire d'amour élémentaire queer du réalisateur Léa Missius dans les cinémas du Canada à partir du 24 mars prochain. Eh oui, Les 5 Diables mettant en vedette Adèle Exarchopoulos. Ce conte énigmatique de mystère familial et de fantaisie a reçu sa première mondiale au Festival de Cannes 2022 à la quinzaine des réalisateurs. Les 5 Diables de Léa Missius, une belle fresque intimiste autour des vies manquées et des obsessions humaines. Un film original et intègre. Avoir absolument 2 paires de billets vous attendent, madame, monsieur, disponibles aux membres de la radio. Les 5 Diables au TIFF Bell Lightbox le 24 mars. Écrivez-nous immédiatement à popourri@cut.fm et bonne chance. Et nous sommes très heureux d'accueillir un nouveau partenaire, l'ACFAS à Toronto, un organisme à but non lucratif contribuant à l'avancement des sciences au Québec, dans la francophonie canadienne et sur la scène francophone internationale. Et je vous rappelle que pour la première fois à Toronto, l'ACFAS nous présente le concours Ma thèse en 180 secondes, le 21 mars prochain des 17h30 à Massey College dans la Common Room. Tous les détails, bien sûr, sur notre site. Je vous rappelle que plus de $1,500 en prix seront remis durant la soirée et le public sera invité à voter pour les meilleurs candidats. Retrouvez tous les détails sur notre site web popourishow.com ou acfas.ca/acfas-toronto. Et la 5e édition du festival Fêter comme Noir se déroule jusqu'au 26 mars prochain à Montréal. Et l'invité d'honneur cette année, Jenny Laguerre, actrice, conteuse, danseuse, enseignante d'origine haïtienne dans la région de Toronto. Elle œuvre aussi à Ottawa, Montréal, et elle participe régulièrement à une variété de projets des arts de la scène, en passant du Théâtre français de Toronto à des festivals de contes. Plus d'une vingtaine d'activités culturelles disposées en plusieurs parties lors de cette 5e édition du festival Fêter comme Noir. Prochain rendez-vous, un colloque sur le théâtre inclusif du 22 au 23 mars à prochain. Et le grand concert, hommage au fameux groupe Zéclé à ne pas rater le 25 mars à prochain. Salle de spectacle au collège Hansik Montréal. Et les membres du groupe seront sur place. Cocktail dès 18h. Et le 26 mars, clôture du festival avec la pièce Maman la mère avec Jenny Laguerre au théâtre Rouge. Découvrez la programmation complète sur compagnietheatracreole.ca ou encore popourishow.com. Et ne manquez pas le prochain rendez-vous de la Société d'Histoire de Toronto. Muse, musique, amusement avec la conférencière Dina Gontard, une passionnée de musique. Elle propose de nous aider à entendre, écouter, décoder et reconnaître les signatures musicales et divers effets. Nous ferons des voyages dans le temps et modes musicaux différents. Mercredi 22 mars à 19h au Théâtre de l'Alliance Française, 24 Spadina Road, Toronto. Tous les détails sur le site de l'Alliance Française de Toronto ou encore sht.ca pour la Société d'Histoire de Toronto ou encore popourishow.com. Et dans le cadre du mois de la francophonie, Francophonie en fête vous invite à un spectacle mémorable où la joie contagieuse et la fête sans retenue occuperont toute la place. Et gagnez vos places pour le seul, l'unique concert de la Compagnie Créole à Toronto le 28 mars. La Compagnie Créole, groupe mythique et ambassadeur du soleil, vous y attend nombreux le 28 mars à 19h30 à l'auditorium École Saint-Frère-André, 330 avenue Lansdowne, Toronto. Et retrouvez tous les détails sur francophonieenfête.com ou popourichaud.com. Et enfin, clin d'œil au Québec avec le retour de la grande dame de la chanson Ginette Renault, qui revient en force ce printemps avec un nouvel album, ainsi que toute sa première autobiographie pour souligner ses 60 ans de carrière. Dimanche 19 mars, à la veille de la Journée internationale de la francophonie, Popourichaud vous convie à une émission très spéciale. Et parmi nos invités de marque, Jean-Louis Roy, ancien délégué général à Paris, secrétaire général de l'Agence intergouvernementale de la francophonie et bien d'autres fonctions, dont président-directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, écrivain, universitaire et diplomate. Avec la crise qui secoue actuellement l'OIF, ce serait intéressant d'avoir son point de vue sur la francophonie canadienne et internationale, pourquoi pas, dimanche 19 mars à ne pas manquer, et peut-être d'autres invités surprises. Et sans plus tarder, le magazine L'Accent des Autres, de la Guinée au Canada, tour d'actualité des médias francophones. Bon mois de la francophonie. Popourichaud, 36 ans, au service de la francophonie d'ici et d'ailleurs, sur CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto.
Et voici L'Accent des Autres, comme chaque semaine, votre rendez-vous avec les médias francophones publics pour les grandes lignes de l'actualité de ces derniers jours. C'est avec la Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada, RFI, France Bleu et la RTVF. Il va d'abord être question aujourd'hui de l'inflation en France en particulier. Les prix grimpent, les ménages ne suivent plus. On s'attend, Éric Valmire, à un mois de mars difficile.
Mars rouge, une flambée des prix, Olivier, en France, qui réduit le quotidien à sa plus juste nécessité. Reportage tout à l'heure en supermarché.
Et puisqu'on parle du pouvoir d'achat, cette question en Belgique, la population est-elle bien lotie en matière de soins de santé? Un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, réalisé avec le Centre belge indépendant des soins de santé, n'est pas très positif sur ce point, Sophie Brems.
Ils estiment en effet que les dépenses de santé sont trop lourdes pour une trop grande partie des ménages. Plus d'un Belge sur 20 a dû faire des choix entre des soins de santé et d'autres dépenses de première nécessité. Et en Europe occidentale, seuls l'Italie, le Portugal et la Grèce font pire que la Belgique.
En Suisse, les autorités veulent faciliter le maintien au travail en donnant un coup de pouce financier aux jeunes parents. Et ça crée un vaste débat, Pierre Chauffin.
En matière de politique familiale, notre pays ne brille pas dans les classements internationaux. La volonté de débloquer 700 millions de francs pour réduire la facture de la crèche ne passe donc pas inaperçue.
Les ressortissants de Guinée-Conakry fuient la Tunisie. Ils sont victimes d'exactions racistes depuis que le président tunisien les a récemment stigmatisés. Il estime qu'ils sont source de crimes et de violences, Laurent Chaffard.
49 Guinéens fuyant les violences racistes en Tunisie sont arrivés soulagés, mais encore sous le choc, mercredi à Conakry.
Enfin, nous reviendrons sur les craintes des Occidentaux à l'égard de l'application chinoise TikTok. Fanny Sanson, elle a notamment été interdite dans les appareils mobiles des fonctionnaires au Canada.
Oui, la plateforme de partage de vidéos a été bannie des téléphones des fonctionnaires du gouvernement fédéral en raison des risques pour la sécurité et la vie privée.
Et voilà donc pour les titres de la semaine. On va rester en Suisse avec vous, Pierre-Han, et ce signal politique fort à présent, la Chambre du Peuple veut aider les familles en réduisant de 20% la facture de la crèche pour les parents qui conservent leur activité lucrative. Le débat est lancé.
Ce n'est pas encore gagné car il faudra convaincre la Chambre des cantons plus conservatrice sur les questions familiales. Mais c'est vrai, Olivier, le signal est fort parce qu'au pays de la responsabilité individuelle, c'est une reconnaissance du rôle et de la responsabilité de l'État dans la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. En dépit des difficultés budgétaires résultant de la crise Covid, en dépit du rôle prioritaire des communes sur la question des crèches, eh bien le Conseil national a voulu faire ce geste pour les familles. Sur le fond, c'est un vrai débat débat de société, illustré ici par la socialiste Valérie Piller-Cahard et l'UDC Jean-Pierre Gras.
Les familles ont besoin de ce coup de pouce aussi en termes d'égalité. Pourquoi la femme devrait toujours réduire, voire rester à la maison pour s'occuper des enfants? Si les politiques ne prennent pas les choses en main, personne ne va le faire. C'est un enjeu pour l'ensemble de la société, l'ensemble de la population. Dans notre pays, nous avons les moyens aujourd'hui de pouvoir financer cette aide.
Je conçois que les dames doivent travailler, c'est vrai, mais pendant qu'elles élèvent leurs enfants, il y a aussi un sentiment maternel qui doit rester. Comme j'entends ma collègue, on aimerait mettre tous les enfants à la crèche et mettre toutes les mamans au travail. Non, moi je dis on doit garder un équilibre. Il y a des mamans qui veulent travailler et il y a d'autres mamans qui veulent garder leurs enfants à la maison. Alors, il faut les aider financièrement pour leur permettre d'avoir un revenu suffisant.
Sauf que le peuple a déjà refusé cette idée de soutenir financièrement celles qui feraient le choix de rester à la maison. Un modèle en perte de vitesse, le taux d'activité des femmes s'est en effet fortement rapproché de celui des hommes ces 30 dernières années.
Pierre Anchoffa pour la Radio-Télévision Suisse.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Nous allons nous rendre cette semaine en Guinée avec RFI parce qu'un premier avion de ressortissants guinéens qui fuyait la Tunisie est arrivé mercredi à Conakry avec 49 personnes à son bord. Elles ont préféré rentrer au pays parce qu'elles sont victimes d'exactions racistes. Des exactions qui se sont multipliées depuis un récent discours du président tunisien. Nous vous en parlions la semaine dernière. Kais Saied a qualifié les ressortissants de l'Afrique subsaharienne de hordes de migrants clandestins dont la présence est source, dit-il, de violence et de crimes. Ce sont donc des Guinéens soulagés, mais encore sous le choc, que Mathias Ranal a rencontré à Conakry.
D'abord, les sirènes du cortège présidentiel. Et puis, juste avant 20h, le vrombissement de cet avion frappé du drapeau guinéen.
Très contente de retourner dans mon pays, vraiment, j'en avais vraiment besoin.
Les rapatriés débarquent peu à peu. Mama Aïssata est avec ses 3 enfants.
On a été agressés là-bas. Parfois, ils viennent, ils tapent à notre porte, ils s'enfuient, juste pour nous faire peur. On ne sort pas même pour chercher à manger. Vous sortez, on vous cogne avec les cailloux. On dit quittez ici, partez chez vous, la Tunisie. C'est pour les Tunisiens.
Falikou a passé 6 ans en Tunisie. De cette vie, il a pu garder quelques valises et une couette glissée dans un cabas.
Toute situation que j'ai pu faire, ils me l'ont enlevé encore pendant 3 jours. Ils ont cassé ma maison. On a dormi, moi et mes enfants et ma femme, on a dormi dans la rue pendant 3 jours. C'était tellement difficile.
Le ministre des Affaires étrangères, Maurice Ondakouyaté, a fait le voyage avec les rapatriés.
Nous mettons un pont aérien en place. C'est le premier convoi qui est venu. On aura encore d'autres convois jusqu'à ce que tous les Guinéens reviennent à la maison. Nous avons appliqué exactement la doctrine du chef de l'État. Un Guinéen à l'extérieur est égal à tout le peuple de Guinée.
Avant de quitter l'aéroport, Falikou soupire. Ma fille a un acte de naissance tunisien. Malgré ça, on n'a pas pu rester.
Reportage de Mathias Ranal en Guinée-Conakry pour RFI et les médias francophones publics. On va se quitter au Canada cette semaine avec une interdiction. Le Premier ministre Justin Trudeau annonçait en début de semaine que l'application chinoise TikTok était désormais interdite sur les appareils mobiles des fonctionnaires, Fanny.
Oui, exactement. L'annonce d'Ottawa a créé un effet domino. Il faut dire aussi que le Canada emboîte le pas aux États-Unis et à l'Union européenne. Donc, un examen mené par la dirigeante principale de l'information du Canada qui a conclu que TikTok présentait un niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité. Ce qui inquiète surtout, c'est que le gouvernement chinois détient une participation dans la compagnie à l'origine de TikTok, ce qui laisse craindre que l'application devienne un outil d'espionnage ou de propagande au service de Pékin.
Et rapidement donc, Fanny, l'interdiction a pris de l'ampleur.
Oui, la Chambre des communes a décidé de l'interdire sur les cellulaires de fonction des élus et au niveau provincial, le Québec, l'Alberta, la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan, en fait la majorité des provinces ont suivi la directive du fédéral et ont aussi décidé de bannir TikTok des téléphones des fonctionnaires.
Il faut dire que les relations entre le Canada et la Chine sont tendues ces dernières semaines. L'ingérence chinoise continue de hanter le gouvernement Trudeau.
Oui, ça continue de hanter le gouvernement Trudeau parce que le rapport d'enquête sur l'ingérence alléguée lors des dernières élections fédérales de 2021 a été déposé cette semaine. Et ce que nous dit le rapport, c'est que oui, il y a eu des tentatives d'ingérence de la Chine, mais rien qui aurait mis en péril la capacité du Canada de tenir des élections libres, mais rien non plus dans ce rapport qui permet de calmer les partis d'opposition qui demande la tenue d'une enquête publique.
Merci à Fanny Sanson qui va refermer l'accent des autres à Montréal cette semaine. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous retrouve, si vous le souhaitez, le week-end prochain en compagnie des médias francophones publics.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5 Monde,
Apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Mois de mars, mois de la francophonie, sur CUT 89,5 FM. La Radio Campus de l'Université de Toronto, financée et soutenue à 100% par les étudiants et plus de 88 000 auditeurs mordus de la radio depuis plus de 36 ans. Et maintenant, place à l'humeur de Linda. Eh oui, chaque semaine, au gré de son humeur et de l'actualité, Linda Giguère, journaliste à la rédaction de TV5 Monde, décortique les mots et les expressions de la langue française dans une chronique à 100% francophone. Le mot du jour, confrontation. Eh oui, en pleine réforme des retraites en France et au premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Linda se penche sur le sens du mot confrontation. Si aujourd'hui nous l'utilisons pour parler d'un conflit, c'est que nous nous faisons influencer par le sens qu'il prend en anglais, confrontation. Eh oui, alors s'agit-il vraiment d'un affrontement quand on parle d'une confrontation? Allez, place à Linda Giguère en compagnie de Mohamed Kassi sur TV5 Monde chaque jeudi. Au JT de midi.
Bonsoir Linda.
Bonsoir Mohamed.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci. Je voudrais vous parler d'un mot ce soir, un seul mot. Un mot qu'on voit partout en ce moment. Ah. Je vous ai même entendu le prononcer tout à l'heure. Il est au cœur de l'actualité. Oui. Ce mot redoutable, c'est confrontation.
Oui, je l'ai dit pour le Proche-Orient dans le rappel
de titre. Absolument. On l'a entendu mardi de la bouche de Vladimir Poutine. Le président russe a dit que l'Occident cherche à transformer le conflit en Ukraine en phase de confrontation mondiale. Alors, je vous rassure, contrairement à ce qu'on pense souvent, la confrontation n'est pas un affrontement, ni une guerre, ni une attaque. La confrontation, c'est l'action de confronter, de comparer, d'accord, de mesurer. Le mot vient du latin médiéval. Confrontatio. À l'origine, aux alentours de l'an 1000, la confrontatio, la confrontation, c'est un franc à front. C'est la partie limitrophe entre deux propriétés. C'est la frontière commune entre des voisins. Ce sens juridique a disparu aujourd'hui, mais on a conservé le sens figuré. La confrontation est devenue le rapprochement de deux individus qu'on veut confondre en confrontant leur point de vue. Oui. Et la confrontation d'un témoin avec l'accusé, la confrontation des idées. En France, le bras de fer actuel entre les syndicats et le gouvernement sur la réforme des retraites est une confrontation. Alors c'est vrai qu'avec le temps, on a eu tendance à lui rajouter un autre sens, celui de conflit, comme en anglais. Eh oui, en anglais, a confrontation est un affrontement. Alors, il semble que nous nous soyons mis à employer confrontation avec son sens anglais. Les linguistes appellent ça un emprunt sémantique. Est-ce que je suis claire?
Absolument, je suis pour l'instant.
Bon, alors je vous disais que la confrontation n'est pas un affrontement. Vous voyez maintenant que les choses ne sont pas aussi claires. En réalité, il y a deux camps qui se confrontent pour définir confrontation. Il y a ceux qui disent oui, la confrontation est un affrontement puisque c'est l'usage qui a décidé. C'est le parti pris par le dictionnaire Le Robert. Et puis il y a ceux qui déconseillent l'emploi de confrontation pour parler d'affrontement. C'est le cas de l'Académie française et de l'Office québécois de la langue française qui, que voulez-vous, n'aime pas les anglicismes. Alors c'est beau, une langue qui évolue, vous trouvez pas? Hein? Ça donne lieu à des débats contradictoires, des confrontations, tiens.
Linguistiques.
Au fait, je voulais vous demander, Mohamed, avez-vous regardé le match hier soir?
Hier, pas trop, mais dimanche prochain, Marseille-Paris-Saint-Germain, ça sera une belle confrontation.
Belle confrontation en vue.
Merci beaucoup, Linda. Merci. C'était l'humeur de Linda. À la semaine prochaine.
Oui.
Le Festival Jeunesse de Ciné Franco est de retour. Du 21 février au 6 mars, Ciné Franco Jeunesse destiné aux écoles vous offre 10 films au Cinéplex Empress Walk au 5095 rue Yang, très accessible par le métro et autobus. La salle ne contient que 370 places et déjà les demandes vont bon train. Avis aux enseignantes, enseignants, n'attendez pas trop longtemps pour réserver. Le prix des billets est de 8 dollars par élève et gratuit pour les adultes, accompagnateurs et professeurs. Tous les films sont sous-titrés en anglais, des livrets pédagogiques, des pistes de réflexion et bien sûr, les dossiers descriptifs accompagneront vos choix.
Rendez-vous sur le site cinéfranco.com et sur les réseaux sociaux. Et du 17 au 20 février et 10 au 12 mars, Ciné Franco vous offre une programmation très intéressante pour toute la famille dans le cadre des vacances scolaires. Des films mêlant aventure à couper le souffle, des comédies hilarantes, des sujets sur l'exil, l'immigration. Retrouvez le meilleur du cinéma pour toute la famille, reflétant la diversité et en français. Du 17 au 20 février et du 10 au 12 mars, le meilleur du cinéma international en français à Toronto. Plus de détails sur cinéfranco.com. Bon cinéma!
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
C'est la loi, c'est la règle, l'usage, selon Grévis, depuis l'école, depuis un siècle, il régente le genre. Écoutez, l'adjectif qui qualifie plusieurs noms de genres différents s'accorde automatiquement au masculin. Ainsi, les hommes et les femmes sont beaux, selon le bon usage. L'adjectif se met donc au genre indifférencié, c'est-à-dire au masculin. Sacré Maurice!
De vive voix, un magazine de Radio France Internationale, présenté par Pascal Paradou. Une émission consacrée à la langue française dans le monde et aux cultures orales que vous retrouverez dans Popourri Show les dimanches de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. De vive voix, une vitrine des initiatives en faveur de la francophonie, consacrée à la langue écrite qui vit, s'adapte, se développe, mais aussi une émission où la langue parlée, blablater, tchatcher, déclamer et murmurer aura toute sa place. En compagnie d'historiens, linguistes, traducteurs, artistes. On vous y attend chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM pour mieux comprendre l'actualité et les évolutions du monde. Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des Femmes et Familles Interconnectées Francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourrichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Popourri Show, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc.
Aujourd'hui, on va parler de la francophonie. Quel est l'état des lieux, comment elle évolue et quelles sont les projections? Alors, pour bien comprendre ce qu'est la francophonie, il faut d'abord la définir. Et ça tombe bien parce que l'Organisation internationale de la francophonie nous en donne une définition. Elle définit un ou une francophone comme étant quelqu'un capable de parler en français, quel que soit son niveau ou sa maîtrise d'autres compétences comme l'écriture ou la lecture. Donc en gros, c'est n'importe qui sait plus ou moins parler français, qu'il sache le lire et l'écrire ou pas. Elle classe les francophones dans trois catégories. La catégorie « naître en français », ça concerne tous les francophones dont le français est la langue maternelle, celle du foyer et donc du quotidien. Cette catégorie se retrouve évidemment en Europe, en France, en Belgique, en Suisse ou au Luxembourg par exemple, mais également au Québec et chez certaines populations d'Afrique ou d'Asie. Ensuite, la catégorie « vivre aussi en français ». Elle concerne ceux pour lesquels le français est venu surtout à l'école, mais qui ensuite l'utilisent également tous les jours dans leur rapport avec l'administration, le milieu médical, la justice, les activités culturelles, les médias, le travail. C'est le cas dans beaucoup de pays d'Afrique. Et enfin, la catégorie « choisir le français comme langue étrangère ». Ce sont ceux qui apprennent ou ont appris le français à l'école. Le français est d'ailleurs la seule langue avec l'anglais à être apprise dans tous les pays du monde. Mais qui ne vont pas l'utiliser dans leur vie de tous les jours, contrairement à la deuxième catégorie. Alors parmi ces trois catégories, c'est la deuxième qui va le plus nous intéresser, car c'est celle qui est la plus susceptible d'influencer l'évolution de la francophonie dans le futur. La première a tendance à stagner, et la troisième, eh bien j'ai quand même un peu de mal à la considérer comme francophone. À mon sens, ce n'est pas parce qu'on apprend une langue à l'école ou qu'on l'a apprise qu'on peut considérer être un représentant de sa communauté linguistique. On ne l'utilise pas forcément au quotidien, on ne vit pas avec. Alors disons simplement que pour l'analyse qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, elle n'est pas pertinente, donc on va la laisser de côté. Avec tout ça, ça nous fait quand même 300 millions de locuteurs selon la définition de l'OIF, dont 235 millions de locuteurs quotidiens, donc les catégories 1 et 2, et c'est cela qui nous intéresse. Et pour comprendre comment la langue française s'est étendue, il faut faire un peu d'histoire. Et l'histoire de la francophonie est étroitement liée à une histoire plus sombre, la colonisation. Voyons un peu les grands pôles de francophonie actuels. Vous avez ici une carte représentant le pourcentage de francophones quotidiens par pays. Seuls les pays avec un minimum de 6% sont représentés. Et on voit que pour la plupart, ils correspondent aux différentes colonies ayant appartenu à la France au cours de son histoire. Sur le continent américain, bien évidemment, on a la région canadienne du Québec, mais aussi l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Et au final, au Canada, ça nous donne 22% de la population qui a le français comme langue maternelle et 30% qui se déclarent francophones. Ensuite, Haïti, qui correspond à l'ancienne colonie de Saint-Domingue, et bien sûr, les territoires appartenant toujours à la France, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la Guyane française. Alors, on remarque aussi que le français n'a pas survécu aux États-Unis, qui n'apparaissent pas, et où l'anglais a pris l'ascendant. Je rappelle que la France a possédé la Louisiane, surtout au XVIIIe siècle. Elle l'a perdue au profit des Espagnols, puis des Anglais, puis la récupère en 1800, la revend en 1803. Bref, c'est compliqué d'instaurer une langue ici, sur un territoire avec peu d'autochtones, auxquels on ne se mélange que très peu, pas accoutumé à cette langue et surtout avec d'autres colons d'un peu toutes les nationalités. Donc le français survit difficilement et finit par presque disparaître au XXe siècle. Quelques descendants de colons français parlent bien l'acadien, un dérivé, mais c'est très largement marginal et ce n'est pas au quotidien. Voilà, donc globalement, sur le continent américain, on a des francophones du quotidien appartenant plutôt à la catégorie « naître en français ». Ensuite, sur le continent asiatique, et j'y inclus bien le Moyen-Orient, dans l'Est, et malgré la période de l'Indochine française, on a aujourd'hui une part très faible de francophones dans cette région. Et ce sont pour la plupart des francophones de la catégorie 3, choisir le français comme langue étrangère. Donc un français appris à l'école et pas utilisé au quotidien. Le français n'a pas bien survécu au Vietnam, notamment parce que la décolonisation s'est faite dans la violence, et parce qu'après, le régime communiste en place a logiquement largement favorisé la langue d'origine, le vietnamien, par rapport au français. Donc de moins en moins de vietnamiens l'apprennent à l'école, ils se tournent plutôt vers l'anglais, et les seuls qui parlent un français issu de la période coloniale sont évidemment des personnes âgées. C'est une région qui ne nous intéressera donc que très peu si on veut étudier la progression de la francophonie dans le futur. Le seul autre pays significatif sur le continent asiatique, c'est le Liban. On y trouve une bonne proportion de francophones de la catégorie 1, naître en français, 38% en 2018, et les catégories 2 et 3 sont également bien représentées dans ce pays. Mais le Liban, c'est 6 millions d'habitants seulement. Donc l'influence sur l'évolution de la francophonie est encore une fois assez peu importante. Et c'est le cas également des régions françaises du Pacifique, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, etc. Vous le voyez venir, en réalité, la zone qui nous intéresse vraiment, c'est bien évidemment l'Afrique. Elle a été colonisée par la France majoritairement au XIXe siècle, et est restée en gros jusque dans les années 50 et jusqu'en 1960. Et aujourd'hui, 59% des locuteurs quotidiens du français se trouvent sur ce continent. Je fais remarquer aussi la présence de la République démocratique du Congo, qui était une possession belge, donc un pays de la francophonie, mais n'ayant pas été colonie française. Alors, il faut séparer deux espaces, l'Afrique du Nord, qui a été composée des deux protectorats du Maroc et de la Tunisie et de l'Algérie française, et l'Afrique subsaharienne. En Afrique du Nord, selon l'OIF, les populations se considèrent assez peu francophones et solidaires des pays de la francophonie, même si selon eux, le français reste indispensable dans la sphère professionnelle. Le français a tendance à régresser en Algérie et plutôt à progresser légèrement au Maroc. On est sur des tendances assez faibles, proches de la stagnation. Mais c'est en Afrique subsaharienne qu'on a des dynamiques plutôt intéressantes, puisque le français a tendance à progresser en part de locuteurs à l'intérieur des pays, donc en pourcentage, mais également en valeur absolue. Et ça, c'est dû aux importantes dynamiques démographiques des pays concernés. Par exemple, entre 2014 et 2018, on a eu plus 11% de locuteurs quotidiens à travers le monde. C'était la moyenne générale. En Afrique, on était à plus 17%. En fait, le français arrive souvent en seconde langue, et on a deux scénarios possibles. Soit on a une langue autochtone principale, et le français arrive en deuxième position, et est utilisé dans des secteurs comme l'administration, les médias, la justice, etc. soit on a une multitude de langues autonomes, et c'est souvent le cas, et là le français est utilisé comme une sorte de langue commune. C'est le scénario le plus courant, en tout cas dans les grands pôles urbains cosmopolites. Et c'est également le scénario qui va le plus favoriser la progression du français dans ces pays. À côté de ça, une étude réalisée en Afrique centrale montre une part croissante de parents s'adressant uniquement ou principalement en français aux enfants, ou ont carrément fait du français la langue du foyer. Au Gabon, au Cameroun ou au Congo par exemple. Ce sont des familles plutôt urbaines dont les parents ont terminé un cycle d'études au moins secondaire et bien souvent supérieur. Donc ici, ce sont même les francophones de la catégorie 1 qui marquent une progression. Mais si le français semble nécessaire à ces populations, quelle vision ont-elles de cette langue ? Des enquêtes de l'OIF ont montré qu'à Bamako, capitale du Mali, le français ne donne pas l'impression d'être en recul, mais n'est pas considéré non plus comme une des langues principales du Mali. Elle n'est pas vue non plus comme la langue des affaires et n'est pas spécialement parlée au travail, mais plutôt vue comme la langue de la France et du colonisateur. En fait, la particularité du Mali, c'est qu'une autre langue joue le rôle de cette langue commune dont je parlais. C'est le Bamanankan ou Bambara, qui est parlé par 82% des Maliens, alors qu'elle n'est la langue maternelle que de 42% d'entre eux. Et de la même manière, à Dakar, au Sénégal cette fois, le français n'est pas considéré en recul, mais pas non plus comme étant la langue des affaires. C'est également pour eux la langue de la France et du colonisateur. Et comme au Mali, on a une autre langue locale dominante, le Wolof, dont l'usage est considéré comme requis au quotidien. En revanche, si on quitte l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et qu'on se dirige vers l'Afrique centrale, à Kinshasa, en RDC, le français est au contraire plutôt considéré comme étant la langue des affaires et de l'école, et n'est pas vu non plus comme étant en recul. En revanche, ils ne considèrent pas encore que ce soit une langue commune. Et enfin, à Libreville, au Gabon, elle n'est pas non plus en recul, plutôt considérée comme la langue de l'école, et cette fois-ci comme une langue commune, bien que ce soit également pour la langue du colonisateur. Donc vous voyez que si globalement on évalue la pratique du français comme étant en bonne voie en Afrique, il ne faut pas oublier que les disparités régionales restent fortes. Ici, nos exemples le montrent bien. Même si le français n'est jamais considéré comme étant en recul, on voit qu'il est plus favorisé à Libreville, au Gabon, ou à Kinshasa, en RDC, qu'à Bamako ou Dakar. Mais malgré ces disparités, l'Afrique subsaharienne va être la locomotive de la langue française dans les prochaines années. Les écoliers africains représentent 73% des apprenants en français dans le monde. En fait, c'est la langue unique de l'apprentissage dans 13 pays africains. Et dans 5 autres, elle est utilisée en parallèle d'une ou plusieurs autres langues. Donc cette génération d'écoliers va potentiellement porter le français dans leur future vie privée et professionnelle. L'OIF a réalisé plusieurs scénarios de projection et donne une fourchette entre 477 et 747 millions de francophones dans le monde en 2070. Contre 300 aujourd'hui. Et ces chiffres sont largement portés par l'Afrique subsaharienne, qui présente des taux de progression impressionnants. Par exemple, au Sénégal, entre 2010 et 2014, c'était plus 38% de francophones. Et de manière globale, on s'attend à un continent africain peuplé de 2 à 3 milliards d'individus en 2050, contre 1,3 milliard aujourd'hui. Mais il faut relativiser et nous rappeler que malgré ces progressions encourageantes pour la place de la francophonie dans le monde, le français se trouve toujours très loin derrière l'espagnol, l'hindi, mais surtout le mandarin et bien sûr l'anglais. Surtout que l'anglais est également énormément parlé en Afrique et donc bénéficie logiquement de cette explosion démographique.
Arrête de me dire de me calmer, mais tu me fais chier. Si j'ai envie de crier, je crie.
Tu es folle.
Mais non, justement, c'est ça que tu comprends pas. Je suis normale. Normale, un humain, tu comprends? Tu devrais essayer des fois de crier, de vivre, de je sais pas moi. Même quand t'es énervé, t'es chiant. Je sais pas, peut-être que j'aurais envie de t'embrasser, d'être un peu heureuse ou de baiser avec toi.
Et oui, c'était un extrait du film Les Cinq Diables, un film réalisé par Léa Michius, mettant en vedette Adèle Exarchopoulos et Sally Dramé, sorti en 2022. Dans le cadre du mois de la francophonie, Potpourri Show est fier de s'associer au distributeur indépendant international de films au Canada, Films We Like, et le meilleur site de cinéma en ligne, Mubi, pour vous présenter Les Cinq Diables, un film fantastique, obscur, inquiétant et un drame familial déchirant. Vicky, petite fille d'un père sénégalais et d'une mère française, une fille étrange et solitaire, tiraillée entre un père qui cherche à s'imposer et une mère qui vit une crise d'identité en étant attirée vers une autre femme, la sœur de son mari. Les Cinq Diables, un conte énigmatique de mystère familial et de fantaisie, qui a reçu sa première mondiale au Festival de Cannes 2022 à la quinzaine des réalisateurs. Les Cinq Diables, un film original et intrigant, à voir absolument. Deux paires de billets disponibles aux membres de la radio. Les Cinq Diables au TIFF Bell Lightbox le 24 mars, à ne pas manquer. Écrivez-moi immédiatement à popourri@cut.fm. Les Cinq Diables, voici la bande-annonce.
7 degrés.
20 minutes alors. T'es prête?
Je t'aime, maman.
Allez, les filles, on crie, allez!
Quoi?
Pas grand chose.
Le champignon. Et puis il y a aussi l'odeur de l'animal qu'il a mangé.
Ferme les yeux.
Un carnet qui sent la piscine. Et aussi un peu le café. C'est ta petite sœur ou ta grande sœur?
Petite sœur.
Et pourquoi je la connaissais pas avant alors?
Je veux qu'elle s'en aille. Je supporte pas.
Elle est chez vous?
Bah non.
Je ferais pas ça quand même.
Et c'est une putain de folle furieuse, c'est...
Je vois des choses. Je vois une petite fille.
Il y a une odeur infecte dans la chambre de Julia. Et le corbeau cuit que je viens de retrouver dans le jardin, c'est pas toi non plus?
Je sais ce que tu fais. T'arrêtes tout de suite avant que ça dégénère, ok?
Brosse à tu, brosse à chef, t'es des vies et des morts.
Pourquoi t'es revenu?
Je m'en veux d'avoir pété les plombs.
Pourquoi t'es revenu?
C'est de passage à Grenoble?
Non. La vraie raison.
Je voulais te revoir. Tu m'en veux d'avoir pété les plombs?
Par les temps qui courent.
Tu m'en veux d'avoir fait un enfant avec ton frère?
Marie Richeux.
20 minutes.
Vous avez tous déjà fait cette expérience troublante d'une odeur qui vous propulse avec force au cœur d'un souvenir. Le corps entier s'en trouve saisi parce que l'odeur c'est l'air, et l'air, on ne peut pas faire autrement que de le respirer. Il y a quelque chose d'invasif et d'impérieux, peut-être plus encore quand le souvenir en question est traumatique. La petite fille que vous mettez en scène dans votre dernier film, Léa Misius, se passionne pour les odeurs, elle les conserve et découvre un jour que respirer l'une d'entre elles lui permet, non pas de se souvenir, mais de revisiter des scènes du passé sans être vu. La scène impossible à revisiter pour un enfant est celle de sa conception et c'est l'une des questions incendiaires ici. Où étais-je avant que de naître? Est-ce qu'on m'aimait déjà? Est-ce que ceux qui m'ont fait et qui ont fait ce que je suis s'aimaient? S'aimaient-ils? S'aimaient-elles? Lorsque les traumas se lèvent d'une manière ou d'une autre, on dit que le désir circule de nouveau et souvent différemment. Si votre film creuse l'inquiétante étrangeté dans un décor de montagne qui peut se faire menaçant, il se termine sur la vie et l'amour retrouvés. Bonsoir Léa Misius.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue. Les Cinq Diables, c'est le titre de votre film. Il a été présenté au dernier festival de Cannes. Il est en salle dès aujourd'hui. Soyez donc la bienvenue. Vous, vous nous accueillez dans un autre espace. Je dis qu'il peut se faire menaçant parce que c'est un film, Les Cinq Diables, qui est un film pétri d'éléments, avec les éléments, traversé des éléments, le feu, l'eau, le vent, la montagne, enfin, c'est très 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 présent. Comment est-ce que c'est arrivé au scénario ou dans la préparation du film ?
Je pense qu'en fait, c'est arrivé très naturellement dans le sens où j'aborde le cinéma de manière très physique, je pense, et très sensorielle. Et je j'imagine pas trop faire un film à Paris ou enfin après ça arrivera peut-être un jour, mais quand j'invente une histoire, je pour l'instant j'imagine des paysages plus primitifs, on va dire. Et là c'est parti vraiment de l'idée de cette petite fille étrange et solitaire qui a une passion pour les odeurs et qui les collecte comme dans des petits pots, et qui a une passion surtout pour sa mère dont elle collecte l'odeur. Et en fait ça vient d'un intérêt très personnel que moi j'ai pour les odeurs, j'adore sentir, je sais pas, des parfums comme ça, essayer de reconnaître la composition, enfin je peux passer des heures à faire ça, ou essayer d'en fabriquer aussi, mais bon ça c'est plutôt catastrophique. Mais je voulais vraiment pas placer le film dans le monde de l'industrie du parfum, je voulais vraiment parler des odeurs au sens encore une fois primitif et sensoriel premier. Et c'est comme ça, je pense, que je me suis retrouvée dans un décor de montagne. Et ça aussi, c'était aussi, je pense, en rapport avec Ava, mon premier film, qui était vraiment au bord de la mer, dans une ambiance très estivale, très solaire. Donc ça, je pense que c'était le contrepoint où ce deuxième film, j'ai voulu le faire à la montagne et avec...
Avec moins de soleil, quand même.
Voilà, oui, y en a quand même, hein, mais que ces éléments travaillent le film différemment que dans le premier, quoi.
Oui, et puis il y a vraiment l'idée aussi d'éléments au sens où ils sont complémentaires, antagonistes. Le personnage de l'homme, d'un homme, père, amoureux pour certaines, est pompier. La mère, jouée par Adèle Exarchopoulos, nage dans un lac glacé. J'espère que je révèle pas grand-chose en disant que un des événements traumatiques de cette histoire est un incendie. Il y a vraiment quelque chose comme ça dans des êtres et des éléments qui s'emboîtent, quoi.
Oui, c'est vrai. Et en fait, quand j'écris, j'écris de manière très instinctive, on va dire. Et c'est vrai qu'après, j'essaie de théoriser ou de raisonner après coup. Et c'est vrai que quand je me suis aperçue qu'il y avait le pompier, le feu, l'eau...
Le lac gelé, l'eau... La natation, oui, j'ai pas dit ça, mais c'est vrai, il y a la natation, la prof de natation et prof d'aquagym ou d'aérobic, quoi.
Voilà, c'est ça. Et après, je me suis dit, est-ce que c'est trop? Parce que souvent, enfin, on fait attention quand même à pas trop faire de clichés. Et à la fois, je voyais pas l'histoire autrement. Et puis, il y avait cette idée que Johan, le personnage joué par Adèle Exarchopoulos, était comme un volcan éteint qui s'éteignait dans l'eau glacée, en tout cas toute la première partie du film. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, laissons aller les choses comme elles vont. Et puis, essayons de faire que dans le film, ce soit plus, encore une fois, sensoriel et mystique ou mythique plutôt que cliché, quoi. Mmh. C'est ce qu'on essaie de faire. Hein, mais...
En poussant les curseurs, justement, pour atteindre cet endroit-là, du mythique ou de l'archétypal. Mmh. On en revient aux odeurs centrales, donc, dans ce film.
Quand j'ai commencé à travailler sur le thème de l'odorat, des odeurs du parfum, dans les années 80, les pouvoirs de l'odeur n'intéressaient pas grand monde. L'olfactif était très méprisé, mis de côté, parce que l'odorat passait pour un sens inférieur, archaïque, animal. Pour certains philosophes comme Kant, il était même inutile de le développer. Pour Freud, il fallait que l'odorat se soit effacé pour que la civilisation se développe. Et depuis 25 ans, il y a un rétablissement complet et on est aujourd'hui très très loin de ces considérations négatives sur l'odorat et les odeurs.
Et en fait, quand je filme des enfants, donc soit dans ce film ou bon, dans Ava, elle avait 13 ans, donc c'est pas vraiment une enfant. Mais dans mes courts-métrages aussi, j'ai filmé pas mal d'enfants. En fait, ce que j'aime, c'est d'être... avec eux au moment où, enfin, ils sont enfants, quoi, sans qu'il y ait de côté justement nostalgique, on se retourne vers le passé. Et j'ai l'impression que j'ai une mémoire très vive de ce que j'étais enfant. Alors je sais pas pourquoi, je l'ai plus que certaines personnes qui ont oublié leur enfance, par exemple, ce qui me paraît complètement absurde. Alors que moi, bon, c'est peut-être que j'ai une sœur jumelle aussi qui fait qu'on a beaucoup raconté, en fait, et on sait raconter ensemble. Donc peut-être j'ai gardé comme ça ce souvenir vivace et très présent de ce que j'étais. Mais c'est comme s'il y avait toujours une continuité et que l'enfant de 5 ans, la Léa de 5 ans, était la Léa d'aujourd'hui. Donc, c'est dans mes films, c'est ça que j'essaie de montrer. Enfin, de faire vivre ces enfants et que ce soit pas comme dans beaucoup de films, après qui peuvent être très bien, mais c'est où l'enfant est le personnage secondaire, ou qu'il est l'enfant, quoi. Alors que pour moi, là, chaque enfant que je filme est un personnage. et avec donc avec ces questions, avec ces questions d'enfant forcément, mais qui sont quand même des questions très matures que peut-être beaucoup d'adultes se posent encore et qui me semble important en fait de filmer l'enfance de cette manière parce que c'est pas édulcorer l'enfance quand on parlait de la violence et tout ça tout à l'heure. Je pense que vraiment dans les cours de récré c'est extrêmement violent. Enfin on le sait quand on voit Récréation par exemple, de Claire Simon.
Voilà, incroyable ce film, mais il faut avoir le cœur accroché quoi.
Voilà, mais pour moi c'est ça l'enfance, c'est le souvenir que j'en ai. Et au-delà, après, c'est vrai que j'ai eu la chance de grandir à la campagne et tout ça, donc j'étais tout le temps dans les bois, donc avec ma sœur, et puis à sentir des choses, à vivre des choses comme ça. C'est sûrement pour ça qu'aujourd'hui, dans mes films, on est toujours à la campagne et que les enfants ont ce côté-là un peu sauvage parce que c'était mon enfance un peu.
Merci beaucoup Léa Misius. Les cinq diables est donc en salle et on a cité donc Paul Guillaume. L'image est magnifique, on n'a pas pris le temps de parler du fait que c'était en pellicule, mais ça donne toute son ampleur à tout ce que vous filmez. Merci beaucoup.
Merci.
Et oui, c'était un entretien avec la réalisatrice et scénariste Léa Misius, qui après Ava revient avec son nouveau film Les Cinq Diables au TIFF Bell Lightbox le 24 mars prochain, à ne pas rater. Deux paires de billets pour les membres de la radio. Ou si vous n'êtes pas membre, alors pourquoi ne pas vous inscrire? Popourri@cut.fm. Bonne chance. Et merci à Radio France pour cette entrevue. Dans la deuxième heure, comment se porte la langue française en Louisiane? Et qui est le champion, l'artiste de la francophonie de Louisiane, dont les dizaines d'artistes ont repris une de ses chansons? À découvrir dans la deuxième heure. Aussi, quelques réactions des Français de Toronto suite à la crise qui secoue actuellement le consulat général de France à Toronto. On en parle. Et oui, maintenant, place à Ginette Renaud qui fait un comeback, un retour à l'avant-scène. On s'en souvient que Ginette Renaud a eu des ennuis de santé en octobre 2021 après avoir subi un malaise cardiaque. Et oui, les admirateurs de l'illustre chanteuse québécoise pourront se procurer le 6 avril prochain son 42e album en carrière qui s'intitulera « C'est tout moi ». Voici en exclusivité, madame, monsieur, une des chansons que vous découvrirez sur son prochain album. Comme vous. Bon mois de la francophonie, bonne célébration. Et à tous les auditeurs, auditrices de la province du Québec, bienvenue sur CUT 89,5 FM, la radio des francophonies.
Je veux vous dire ce soir que je suis comme vous, que dans ma vie j'en ai manqué des rendez-vous d'espoir, des rendez-vous d'amour, et que parfois j'ai perdu le goût à l'humour. Je veux vous dire aussi que je chante dans mon bain, que certains jours, comme vous, je ne chante pas très bien. Et puis qu'à l'agenda, quand nous revient novembre, avec l'âge en dedans, moi, j'ai la voix qui tremble. Je veux vous dire aussi qu'avec mon look heureuse, combien souvent petite, je me sens dans mes bleus. Et que l'enfant en moi, comme le vôtre est pareil, et qu'à Noël encore, cet enfant s'émerveille. Je veux vous dire aussi que je suis comme je suis, je vole, je bats des ailes comme un oiseau de nuit, pas plus belle, pas plus laide que ma voisine de rue. Je suis fidèle à l'enfance disparue.
Popourri Show, 36 ans cette année. Une émission qui donne la parole sans voix de la francophonie torontoise, canadienne. Les témoignages libèrent la parole et jouent un rôle de prévention, aide au recul des préjugés. Mille merci pour vos nombreux messages en provenance de Sydney, en Australie, Rennes, Toulouse, Port-au-Prince, Montréal, la ville de Québec, Ottawa, la ville de Gatineau, Welland, Hamilton et bien sûr Toronto. Et à la question « Pourquoi Toronto est si populaire ?» Eh bien, Toronto est un centre international des affaires, de la finance, des arts, de la culture et est considéré comme l'une des villes les plus multiculturelles et cosmopolites au monde. Les festivals nationaux et internationaux de Toronto, tels que le Grand Festival caribéen, le Festival Compazouk de l'Ontario, le Festival international du film de Toronto, ainsi que le Grand Festival annuel Ciné Franco, inscrivent également la ville dans cet ancrage multiculturel. Cette émission est réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, France 24, TV5 Monde, Sophie Frogniagara, Le Créfo. Et chers parents francophones, francophiles, si vous cherchez de moments d'évasion lors des vacances scolaires, Ciné Franco a tout ce qu'il vous faut pour vous et vos enfants. Du 17 au 20 février et du 10 au 12 mars, Ciné Franco vous offre une programmation très intéressante à tailler sur mesure pour toute la famille dans le cadre des vacances scolaires. Des films mêlant aventure à couper le souffle, des comédies hilarantes, des sujets sur l'exil et l'immigration. Retrouvez le meilleur du cinéma pour toute la famille, reflétant la diversité et en français. Du 17 au 20 février et 10 au 12 mars, le meilleur du cinéma international en français à Toronto. Plus de détails sur cinéfranco.com ou sur notre site popourichaud.com. Bon cinéma!
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Et oui, nous saluons tous les membres du CREFO et de l'ACFA Toronto, nouveaux partenaires qui nous invitent à célébrer la semaine de la francophonie avec la finale franco-torontoise du concours Ma Thèse en 180 secondes prévue pour le 21 mars dès 17h30 au Collège Massé de l'Université de Toronto. Je trouve ce projet tellement innovateur. Des étudiants d'expression française des universités de Toronto et des environs auront 3 minutes top chrono dans un format ludique et dynamique pour vulgariser leur projet de recherche. Ah oui, en tout, 9 candidats de différents domaines présenteront leur recherche. Plus de 1 500 $ en prix aux heureux gagnants. Tout le monde est le bienvenu, famille, amis, professeurs, collègues, membres de la communauté. Des sandwichs, du café et du thé seront servis. Mardi 21 mars, dès 17h30 au Collège Massé de l'Université de Toronto, c'est une première pour Toronto. Eh ouais, je vous invite à vous inscrire, madame, monsieur, et vous découvrirez les noms des candidats, candidates de la finale torontoise. Veuillez visiter acfa.ca/acfa-toronto ou tout simplement sur notre site popourichaud.com. L'ACFA s'entend déjà, un organisme à but non lucratif, contribuant à l'avancement des sciences au Québec, dans la francophonie canadienne et sur la scène francophone internationale. L'ACFA Toronto, des activités accessibles à tous, un service de l'avancement des savoirs. Francophonie. Célébration. Et oui, notre partenaire spécialiste en spectacle et concerts au sein de la francophonie torontoise vous y attend nombreux au passage du groupe mythique, la Compagnie Créole, un groupe qui a bercé mon enfance. 40 ans après, ils sont toujours là. Le 28 mars à l'école Saint-Frère-André, 2 paires de billets pour les membres de la radio. Écrivez-moi immédiatement popourri@cut.fr.
Quelques petites nouvelles rapides. Crise au consulat général de France de Toronto. Le tribunal administratif de Toronto a tranché. Le juge a des référés rejette la demande d'Yves Chauchat, consul adjoint qui souhaitait voir sa mutation vers Paris interrompue. Une audience sur le fond pourrait avoir lieu d'ici 10 à 12 mois. La mutation d'Yves Chauchat, qui était consul adjoint à Toronto jusqu'en décembre dernier, est survenue au lendemain du dépôt d'un second signalement à la cellule Tolérance Zéro, service de lutte contre le harcèlement au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Le consul Tudor Alexis a fait l'objet de 6 signalements pour des faits de harcèlement moral depuis plus de 2 ans. Plusieurs femmes dénoncent un climat délétère et sexiste. Une autre plainte émane du numéro 2 du consulat. L'affaire a fait grand bruit dans les grands médias francophones en France et au Canada au début de l'année, et plusieurs Français résidant à Toronto nous ont envoyé des messages de soutien et de remerciement à M. Yves Chauchat, qui a quitté définitivement Toronto dimanche dernier, dans l'intérêt du service, nous dit-on. En dernière heure, nous apprenons que M. Tudor Alexis, consul de Toronto, a été vu à Paris la semaine dernière. Les pays de la Caraïbe peuvent-ils aider Haïti à sortir de la crise? C'est un tout dernier article signé Annick Chalifour. Une délégation des pays de la Caraïbe, CARICOM, a récemment rencontré Ariel Henry, chef intérimaire du gouvernement haïtien à Port-au-Prince, pour tenter d'apporter des réponses immédiates aux problèmes de l'insécurité dans ce pays, selon un reportage dans le National de Port-au-Prince. N'est-il pas le devoir du gouvernement haïtien, même provisoire, de veiller à la protection de sa population? S'il en est incapable, n'est-il pas le devoir des gouvernements de ce continent de prêter main forte? Haïti n'est pas en Afrique, en Asie, en Europe, ni en Océanie. Elle fait partie de nous, les Amériques. Cessons d'isoler Haïti. Un article signé Annick Chalifour, journaliste de l'Express de Toronto. Avant de nous plonger en Louisiane, place au journal d'Haïti et des Amériques avec Radio France Internationale. Bon appétit si vous êtes à table.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
TRFI, il est bientôt, il est 13h10, c'est en temps universel, le journal d'Haïti et des Amériques tout de suite. Bonjour Justine Fontaine.
Merci Solène, bonjour à toutes et à tous. Il est 8h10 à Port-au-Prince. Haïti, toujours à la merci des gangs. Des enlèvements ont lieu plusieurs fois par jour depuis plus d'une semaine maintenant et forcent les habitants à rester chez eux. On retrouvera Godson Pierre d'Alter Presse pour faire le point sur la situation ce matin à Port-au-Prince. Témoignage aussi dans ce rendez-vous d'un chef d'entreprise étranger installé en Haïti face à cette situation sécuritaire extrêmement difficile. Faut-il changer le système des cautions aux États-Unis? Les activistes dénoncent un système qui pénalise les plus pauvres, alors qu'à Houston, au Texas, certains de ceux qui ne peuvent pas payer meurent en détention avant d'avoir été jugés. Et puis, au sujet du journal des Outre-mer, Benoît Ferrand, cette question, les personnes qui veulent vendre un terrain aux Antilles doivent-elles informer l'acheteur d'une éventuelle pollution au chlordécone?
C'est ce que prévoit en tout cas une disposition du Code de l'environnement, pas encore appliquée, semble-t-il, du côté de la Martinique ou de la Guadeloupe, mais ça pourrait bien ne pas durer.
Voilà donc pour le programme qui sera un peu plus court que d'habitude, car l'antenne de RFI est perturbée en raison de la grève nationale contre la réforme des retraites en France.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Des salves d'armes automatiques de jour comme de nuit depuis près d'une semaine et les gangs qui renforcent leur emprise sur Haïti. La situation sécuritaire est donc toujours extrêmement difficile dans le pays. Pour en parler, on retrouve Godson Pierre, rédacteur en chef du site Alter Presse. Bonjour Godson.
Bonjour Justine.
Tout d'abord, comment s'est passée la nuit? Est-ce que la situation est toujours aussi tendue ce matin à Port-au-Prince?
Bien, on observe un calme précaire à la capitale. Des quartiers comme Bel Air, Sans-Fil, Carrefour, Péan, Solino, Fort National, Delma 24, Nazon et Avenue Poplar au centre-ville sont encore restés sous tension, même si des habitants nous disent que la nuit dernière a été moins éprouvante que les précédentes. Vous savez que depuis plus d'une semaine, les crépitements continuel d'armes automatiques des gangs armés installe la terreur dans ces quartiers, alors que les kidnappings se multiplient à travers Port-au-Prince, de nombreuses personnes hésitent à sortir.
Est-ce que les écoles sont toujours fermées ce matin dans la capitale ?
bien face à l'angoisse du quotidien pour parents, professeurs, élèves, personnel administratif, eh bien de plus en plus d'établissements scolaires ont préféré garder leurs portes fermées. Et ceci depuis le vendredi 3 mars dernier, en espérant une amélioration de la situation sécuritaire.
Merci Godson, on vous retrouve tout à l'heure. Mais avant cela, la situation sécuritaire inquiète aussi les chefs d'entreprise haïtiens en premier lieu, et puis les dirigeants étrangers comme Martin Boot, qui est le PDG de la compagnie de télécom Digicel en Haïti. Cet homme d'affaires belge vit depuis de nombreuses années dans le pays. Alors quel regard en tant que chef d'entreprise porte-t-il sur l'effondrement de la situation sécuritaire du pays ? Ce lundi, il écrivait sur Twitter « La situation est de plus en plus désespérée à Port-au-Prince. Nous avons besoin d'aide. » Stéphanie Schuller l'a joint par téléphone.
La situation est de pire en pire, malheureusement. Les gangs armés qui contrôlaient jadis quelques, disons, quartiers populaires de la ville, maintenant opèrent à travers toute la capitale. Il n'y a pas un endroit qui est safe, comme on le dit, et donc ça devient vraiment critique. La PNH, la police nationale, est dépassée. Les kidnappings se font par douzaines par semaine. Comme je disais dans mon tweet, chaque heure, on entend un autre cas dans un autre quartier de la ville. Donc la situation devient vraiment très critique et malheureusement, on ne voit pas vraiment de l'aide à l'horizon. C'est pour ça qu'il y avait un énième appel au secours ce matin quand j'ai fait ce tweet.
Et Monsieur Boot, est-ce que vous considérez, vous qui êtes quand même en Haïti aussi depuis très longtemps, qu'on se trouve là sur une sorte de point de bascule en ce qui concerne la capitale ?
Je pense que oui, je pense qu'on a déjà dépassé ce point de bascule. On a vu fin janvier même l'enceinte de l'aéroport qui a été franchie. Lors d'un retour du Premier ministre, des policiers en grève ont réussi à percer l'enceinte de l'aéroport. On voit maintenant des kidnappings qui se font dans les maisons des gens. Donc précédemment, c'était dans certains quartiers. Après, c'est devenu toute la ville. Et maintenant, c'est carrément des braquages tôt le matin qui se font devant les écoles. Et malheureusement, la police nationale est de plus en plus impuissante. Ils n'ont pas les moyens logistiques, ni les armes, ni suffisamment d'hommes pour faire face à ce qui se passe maintenant. Donc je crains qu'on a passé le point de bascule et que malheureusement, jusqu'à présent, on n'a aucun signe clair d'aide éventuelle qui viendra de l'étranger.
RFI, il est 8h24 bientôt à Ottawa, où après des révélations des médias canadiens le mois dernier, selon lesquelles la Chine aurait tenté d'interférer dans le résultat des dernières élections, le Premier ministre Justin Trudeau, sous pression de son opposition notamment, a annoncé hier une série de mesures pour tenter de prévenir les tentatives d'ingérence dans le pays.
I'm announcing that I will be appointing an independent special rapporteur.
Je vais nommer un rapporteur spécial indépendant qui aura de vastes prérogatives et donnera des recommandations pour renforcer notre démocratie et pour mieux lutter contre les tentatives d'ingérence. Nous savons depuis longtemps, et un rapport indépendant l'a encore confirmé, que le gouvernement chinois et d'autres régimes comme l'Iran et la Russie ont tenté d'interférer, non seulement dans notre vie démocratique, mais dans notre pays en général, qu'il s'agisse de nos institutions, de nos entreprises, de nos installations de recherche. Aujourd'hui, tous les dirigeants politiques s'accordent à dire que les résultats des élections de 2019 et 2021 n'ont subi aucune ingérence étrangère. Mais même si cela n'a changé le résultat d'aucune de nos élections, toute tentative d'ingérence de la part d'un acteur étranger est perturbante et grave.
Et on devrait connaître dans quelques jours le nom de ce rapporteur spécial au Canada.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Il est 10h25 à Brasilia, au Brésil, où les autorités fiscales et la police ouvrent chacune une enquête sur les bijoux de Bolsonaro. La presse brésilienne a révélé la semaine dernière qu'une délégation de l'ancien président avait tenté en octobre 2021 de faire entrer dans le pays l'équivalent de 3,2 millions de dollars en bijoux sans les déclarer à la douane. Une montre, des boucles d'oreilles ou encore un collier qui, selon le journal Estado de São Paulo, était un cadeau du gouvernement saoudien à la femme de Jair Bolsonaro, Michel.
Le journal de l'Outre-mer.
On vous retrouve Benoît Ferrand d'Outre-mer la première avec aux Antilles donc cette question, le vendeur d'un terrain sera-t-il bientôt obligé d'informer l'acheteur d'une éventuelle pollution au chlordécone ?
C'est ce que prévoit en tout cas une disposition du Code de l'environnement, une disposition pas encore apparemment en activité, si l'on peut dire, du côté des Antilles, de la Martinique et de la Guadeloupe, ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Écoutez l'avocate Lorraine Corneli au micro de la Première Guadeloupe.
Pour le moment, il n'y a pas du tout eu, en tout cas concernant la Guadeloupe et concernant le chlordécone en particulier, d'arrêt qui prévoit donc cette obligation d'informer de la présence de chlordécone. Mais je pense qu'il est dans l'intérêt, en tout cas, de la pratique notariée, d'intégrer dans les contrats de vente une clause prévoyant en effet qu'il y a une pollution, un risque de pollution au chlordécone. Et il s'agirait simplement d'intégrer une clause que les notaires sauront rédiger pour prévenir, pour informer de la présence de chlordécone, puisque par la suite, en effet, un locataire ou un acheteur pourrait peut-être se retourner sur le fondement du défaut de conformité et du défaut de connaissance, même s'il est de notoriété publique que certains terrains en Guadeloupe et en Martinique sont pollués par le chlordécone.
On reste en Guadeloupe avec le comité de pilotage du programme caribéen sur les algues sargasses qui a tenu hier sa 4e réunion dans un hôtel du Gosier. On a évoqué la mise en place prochaine d'un site internet qui proposera en temps réel les données sur les prévisions d'arrivée des algues brunes. En Guadeloupe, on en attend cette année 200 000 tonnes, au grand désespoir de Sylvie Gustave Diduflo. Elle est conseillère régionale, vice-présidente de la région Guadeloupe, chargée de l'environnement. Elle est au micro de Sébastien Gilles.
Sur le bassin caribéen, on a 19 millions de mètres cubes de sargasses. Seulement 30% s'échouent, mais c'est 30% de trop. Et aujourd'hui, ce bassin caribéen, l'Amérique centrale, nous sommes des hotspots de biodiversité. Si on ne fait rien, ces sargasses vont tout simplement, de manière irréversible, altérer cette biodiversité, la dégrader et la faire disparaître. Les dernières études mexicaines montrent très clairement que les algues sargasses, lorsqu'elles sont présentes, détruisent tout. Mais même lorsqu'elles ne sont pas là, elles laissent une espèce de film, de pellicule marron qui est encore dans la mer et qui va continuer à asphyxier les végétaux et la faune dans les écosystèmes marins. J'ai l'impression qu'on ne voit jamais le plafond de ces échouements. Une année moyenne, c'est 50 000 tonnes d'algues collectées. Et là, cette année, on attend près de 200 000 tonnes. Donc, sincèrement, je ne sais pas comment s'en sortir à notre population, je ne sais pas comment s'en sortir à notre biodiversité. Et donc, c'est pour ça que moi, en tant qu'élu, je suis pour qu'on agisse et qu'on agisse de manière efficace.
Bon après-midi, Justine. À demain.
Bon après-midi à vous aussi, Benoît Ferrand d'Outre-mer, la première. C'est ainsi que se termine ce rendez-vous légèrement perturbé par un mouvement de grève en France contre la réforme des retraites qui perturbe donc les antennes de RFI aujourd'hui. Merci à Claude Battista à la réalisation. L'information revient dans un peu plus d'une demi-heure sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.
Eh oui, Popori Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPCA, et le Mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPCA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort merci en pile à Ketta et le mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourichaud.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
Que sait-on des Acadiens ? Vu de France, on se souvient d'une chanson populaire interprétée par Michel Fugain. Et on confond bien volontiers ses cousins lointains et leur drôle d'accent avec leurs voisins québécois. Bref, on ne connaît pas grand-chose. Pourtant, les Acadiens font partie de l'histoire de France. Partis de l'Hexagone il y a 3 siècles à la conquête d'un nouveau monde, ils sont aujourd'hui 4 millions à peupler l'Amérique du Nord. Et ils parlent un français étonnant.
Voulez-vous que je vous conjugue un verbe ? Manger. Je mange. Tu manges. Ils mangent. Je mangeons. Vous mangez. Ils mangeons.
Un peuple qui se bat depuis le début de son existence. Persécutés par les Anglais, les Acadiens ont failli être rayés de la carte à plusieurs reprises. Un peuple en résistance permanente pour faire vivre ses traditions, sa culture et surtout sa langue, une lutte quotidienne.
Être Acadien aujourd'hui, c'est assumer pleinement le fait d'être francophone dans une mer d'anglophones.
Les Acadiens aujourd'hui, on en trouve au sud-est des États-Unis, en Louisiane, où on les appelle Cajuns. Ils sont présents au Québec, au sud du Canada, mais aussi sur la petite île française de Miquelon. Un peuple dispersé, mais uni autour d'un drapeau tricolore français surmonté d'une étoile qui symbolise l'océan qu'ils ont traversé.
Cap sur la Louisiane. Connaissez-vous l'histoire de la langue française en Louisiane ? Malgré la grande puissance de la langue anglaise aux États-Unis, la langue française a réussi à subsister dans l'État de la Louisiane grâce à des groupes de résistance. Cet héritage franco-louisianais remonte à la fin du XVIIe siècle avec les premiers explorateurs français qui s'intéressent au fleuve Mississippi. Venu de la Nouvelle-France, René Robert Cavelier de La Salle descend le Mississippi jusqu'à son delta dans le golfe du Mexique et prend possession du territoire qu'il nomme Louisiane en l'honneur de Louis XIV, roi de France. Devenu membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie en 2018, une importante reconnaissance pour cet État, la francophonie louisianaise connaît un renouveau après quelques décennies tumultueuses, notamment grâce au travail effectué par le Conseil pour le développement du français en Louisiane. Avant que l'enseignement de l'anglais ne devienne obligatoire dans les écoles en Louisiane en 1916, la majorité de la population dans les 22 comtés qui composent Acadiana, soit environ un tiers de l'État de la Louisiane, était francophone. Dans les années 1960, la Louisiane comptait 1 million de francophones. Ce nombre a chuté sous les 200 000 au cours des années 2000. Mais les estimations actuelles font état de plus de 250 000 francophones. Les classes d'immersion française sont de plus en plus populaires, des centaines d'élèves sont sur les listes d'attente et une nouvelle génération de Louisianais est prête à prendre la relève et à continuer à faire rayonner l'héritage francophone de la Louisiane. Dans les prochaines minutes, nous allons découvrir un artiste atypique, Zachary Richard. L'Américain francophone, auteur, compositeur, chanteur, poète, accordéoniste et oui, interprète, membre, fondateur d'Action Cadienne, organisme voué à la protection et à la promotion de la culture cadienne et de la langue française de Louisiane. Voici une de ses chansons que j'aime particulièrement, reprise dans le monde entier par des dizaines d'artistes. Travailler, c'est trop dur. Allez, bon mois de la francophonie à tous les francophones de la Louisiane.
Et chanter le français en dehors du Québec. C'est le plus québécois des Américains, mesdames et messieurs. Il vient de la Louisiane. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de lui. Et ça fait longtemps qu'il a envie d'être ici. Mesdames et messieurs, c'est sa première fête nationale avec nous, Zachary Richard.
fille sur l'amour, mais j'espère le dire. Et moi je prends mon violon et je tape mon nage. Et je joue ma vieille valse pour faire mes amis danser. Vous connaissez mes chers amis, la vie est bien trop courte pour se faire des misères. C'est presque tous les soirs, traîner tout partout et puis chanter dans le whisky bar. Et des fois, tu connais moi, j'aimerais lâcher mon aller. Mais je suis venu ici ce soir et je vous fais serment pour le plaisir de vous entendre chanter.
Proudly student and listener supported community radio. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
Bonjour, je m'appelle Eddie King et je suis très heureux d'être le porte-parole des rendez-vous de la francophonie. Préparez-vous à célébrer parce que cette année, les rendez-vous fêtent leur 25e anniversaire. C'est une année toute spéciale parce qu'on fête aussi le 10e anniversaire de la tournée Juste pour rire, dont je serai l'animateur. On en profite pour lancer le nouveau concours d'humoristes en herbe, les As du rire. Visitez dès maintenant le rvf.ca. Vous y trouverez les détails du concours et tout ce que les rendez-vous vous proposent, dont la programmation des activités spéciales qui se dérouleront du 1er au 31 mars.
What do the francophones want? Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires, culturels. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Ici Eric Adair. Je vous invite à Popourri Show, le magazine phare sur CUT 89,5 FM. Chaque dimanche, de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le département d'études langagières campus de Mississauga, la chaire de recherche du Canada en études des minorités à l'Université de Waterloo, les éditions prises de parole, EducNation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT 89,5. La radio comme je l'aime.
France 24. 4 chaînes d'information continue. 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux. Avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Quoi de neuf? Les cafés du Créfour. En partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à les cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à les cafés du CREFO et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Bisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'état dans divers contextes du monde. Quoideneuf.ca. Abonnez-vous maintenant.
De nos jours, parler une seule langue ne suffit pas. Apprendre une autre langue permet de s'ouvrir d'autres horizons, personnels et professionnels. Oui, mais quelle langue choisir? Est-ce judicieux d'apprendre le français comme langue étrangère? 223 millions de personnes parlent français sur les 5 continents. C'est la quatrième langue la plus parlée après l'anglais, le chinois et le hindi.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Potpourri Show et priseparole.ca nous donnent envie de déguster les histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur potpourrishow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur priseparole.ca. Quand poésie, humour et performance riment avec queeritude. Les éditions Prise de Parole nous présentent le tout dernier recueil de poésie « Des fleurs comme moi » de Xavier Gould, un artiste multidisciplinaire queer acadien. Entre Shediac, Moncton et Montréal, Xavier Gould cartographie l'éclatement identitaire qui caractérise son parcours artistique. Xavier Gould, artiste queer acadien, a reçu le prix Viola Légère en 2019. Des fleurs comme moi, la poésie de Gould est sexy, irrévérencieuse et délicieusement cinglante. Xavier Gould, Des fleurs comme moi, aux éditions Prise de Parole, à découvrir sur prisedeparole.ca.
Calme-toi. Putain.
Arrête de me dire de me calmer, mais tu me fais chier! Si j'ai envie de crier, je crie.
Tu es folle.
Mais non, justement, c'est ça que tu comprends pas. Je suis normale. Normale, un humain, tu comprends? Tu devrais essayer des fois de crier, de vivre, de je sais pas moi. Même quand t'es énervée, t'es chiant. Je sais pas, peut-être que j'aurais envie de t'embrasser, d'être un peu heureuse ou de baiser avec toi.
Et oui, c'était un extrait du film Les Cinq Diables, un film réalisé par Léa Micius, mettant en vedette Adèle Exarchopoulos et Sally Dramé, sorti en 2022. Dans le cadre du mois de la francophonie, Potpourri Show est fier de s'associer au distributeur indépendant international de films au Canada, Films We Like, et le meilleur site de cinéma en ligne, Mubi, pour vous présenter Les Cinq Diables, un film fantastique, obscur, inquiétant et un drame familial déchirant. Vicky, petite fille d'un père sénégalais et d'une mère française, une fille étrange et solitaire, tiraillée entre un père qui cherche à s'imposer et une mère qui vit une crise d'identité en étant attirée vers une autre femme, la sœur de son mari. Les Cinq Diables, un conte énigmatique de mystère familial et de fantaisie, qui a reçu sa première mondiale au Festival de Cannes 2022 à la quinzaine des réalisateurs. Les Cinq Diables, un film original et intriguant à voir absolument. Deux paires de billets disponibles aux membres de la radio. Les Cinq Diables au TIFF Bell Lightbox le 24 mars à ne pas manquer. Écrivez-moi immédiatement à popourou@cut.fm. Les Cinq Diables, voici la bande-annonce.
7 degrés.
20 minutes alors. T'es prête?
Je t'aime, maman.
Allez, les filles, on crie, allez!
Quoi?
Pas grand chose.
Le champignon. Et puis il y a aussi l'odeur de l'animal qu'il a mangé.
Ferme les yeux.
Un carnet qui sent la piscine. Et aussi un peu le café. C'est ta petite sœur ou ta grande sœur?
Petite sœur.
Mais pourquoi je la connaissais pas avant alors?
Je veux qu'elle s'en aille. Je supporte pas.
Elle est chez vous?
Bah non.
Je ferais pas ça quand même.
Et c'est une putain de folle furieuse, celle-ci.
Je vois des choses. Je vois une petite fille.
Il y a une odeur infecte dans la chambre de Julia. Et le corbeau cuit que je viens de retrouver dans le jardin, c'est pas toi non plus?
Je sais ce que tu fais. T'arrêtes tout de suite avant que ça dégénère, ok?
Brosse à tu, brosse à chef, t'es débile et t'es mort.
Pourquoi t'es revenu?
Je m'en veux d'avoir pété les ponts.
Ah!
j'attrape ma vieille selle et je selle mon vieux cheval pour aller chercher ma belle. Tu connais cette grand bourg de Saint-Antonio à Beaumont, mais le nom du Grand Texas j'ai cherché juste pour toi. Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. M'en dis la charité, c'est quelque chose je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre.
Travailler c'est trop dur et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre vieux. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre vieux. Et je prends mon violon et j'attrape mon archet et je joue ma vieille valse pour faire le monde danser. Vous connaissez mes chers amis, la vie est bien 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 trop courte pour se faire des soucis. Alors ce soir allons danser.
Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose de parfait. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre mieux. Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre vieux.
Je vous remercie de nous avoir assistés dans cette soirée. Je vous souhaite une excellente fin de vol d'or. A bientôt. Merci à vous.
Notre reporter Anaïs Renevienne nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver après un premier volet hier soir. On le rappelle, vous avez sillonné cet état des États-Unis, la Louisiane, à la rencontre des Cadiens, des résistants, on peut dire de la langue française, cernés par les anglophones. Et vous avez rencontré un artiste qui incarne cette lutte linguistique, Anaïs. Zachary Richard, qui est-il au juste?
Alors Zachary Richard, il a beaucoup de casquettes. Hein. C'est un chanteur, un compositeur, un poète, un activiste. Et il défend surtout la fierté cadienne et dans ses textes.
Ouais.
Et paradoxalement, il n'est pas très connu en Louisiane, en fait, mais il est très connu dans le monde francophone, notamment grâce à cette chanson.
Voilà, extrait de Travailler, c'est trop dur, Anaïs. Zachary Richard, chanteur de Louisiane, donc louisianais et défenseur de la langue française.
Oui, alors c'est son grand cheval de bataille hein, dans ses textes, la langue française. Et il faut dire que la langue française revient de loin, en Louisiane, puisque le français était interdit au début du XXe siècle. Mmh. Et il y a une histoire qu'on entend partout en Louisiane, c'est toujours des gens qui vous racontent « Mon grand-père, ma grand-mère, quand il allait à l'école et qui parlait français dans la cour de récré, il se faisait battre. La culture cadienne a été beaucoup méprisée, c'est plus le cas aujourd'hui. Et je vous propose d'écouter Zachary Richard au sujet de cette culture cadienne.
Il y a d'abord la révolte, qui est ce refus que nous avons maintenant avec confiance, les Cadiens, les Acadiens, de se faire confiner à une deuxième zone. Mais il y a aussi le yin qui fait le yang, l'amour de la famille, l'amour de la communauté, l'amour de cette expérience. Et ce sont les choses que j'ai découvert. J'ai découvert la révolte, le refus d'accepter cette espèce de mépris dont on souffrait pendant si longtemps.
Le refus d'accepter, le mépris. Et du coup, d'ailleurs, Anaïs, vous l'avez remarqué au cours de votre tournage en Louisiane, la pratique même de la langue française est en train de changer. Elle sort du ghetto, si l'on peut dire, et les locuteurs sont multiples désormais.
Oui, alors ce qui est important de rappeler, c'est qu'il n'y a pas que la culture cadienne en Louisiane. Mmh. Chez les francophones, il y a 18 groupes francophones et créolophones et presque autant de dialectes. Et c'est une tradition qui se transmettait surtout à l'oral. On parlait le français à la maison. Mmh. Mais maintenant, il s'apprend de plus en plus à l'école.
On a vraiment rentré dans une phase dans la francophonie louisianaise très intéressante et on est en train de développer une identité qui est basée sur la langue et non pas sur l'ethnie. Parce que les deux groupes ethniques, c'était les Acadiens, les Cadiens comme moi, et les Créoles noirs. Et maintenant, les enfants qui apprennent le français et qui sont dévoués à cette culture et à cette langue sont asiatiques, hispaniques, autant que cadiens ou créoles noirs. Donc on était en train de redéfinir et de créer une nouvelle identité de francophone louisianais avec une très grande différence, et c'est que nous sommes lettrés. Nous avons le pouvoir de la littérature. Nous pouvons lire et écrire, ce qui n'était pas le cas pour mes grands-parents et encore moins pour mes parents.
Et Anaïs, les parents et les grands-parents dont parle Zachary Richard, eh bien au fond, ils font partie de la dernière génération qui était monolingue. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Hein.
Non, aujourd'hui, le français est totalement entouré hein, par l'anglais. Mais l'anglais est un voisin, mais ce n'est pas un ennemi. Et c'est quelque chose de très intéressant en Louisiane. Contrairement à la France, où on est parfois un petit peu puriste, où la grammaire est primordiale, ouais. En Louisiane, le français se laisse totalement inspirer par l'anglais. Alors, ils n'ont certes pas de vocabulaire dans le louisianais français. Ils n'ont pas de vocabulaire pour les navettes spatiales ou la technologie. Mais il y a une grande créativité et une grande inspiration entre les deux langues. Et d'ailleurs, cette richesse culturelle a beaucoup inspiré Zachary Richard.
Est-ce que je suis américain? Est-ce que je suis cadien? Est-ce que je suis québécois? Est-ce que je suis américain? Est-ce que je suis français? Parce que je suis un vagabond, moi. Je suis un chien errant. Donc, mais je m'adapte comme fait partie de la tradition acadienne de s'adapter. Mais je vis tout ça très très bien. Il n'y a pas de conflit entre mon côté américain et mon côté cadien. Je vis pleinement mon biculturalisme, mon bilingualisme, et je le célèbre. Parfois, ça me pose des dilemmes dans la mesure que je sais pas exactement par où aller et à qui je m'adresse, mais je crois que le bilingualisme et le trilingualisme, le multilingualisme, c'est vraiment un atout personnel qui provoque une ouverture envers toutes sortes de choses. Et moi, je le vis avec de plus en plus de confort d'abord et de joie ensuite.
Voilà pour ce témoignage de Zachary Richard. Anaïs, bilingualisme, on dit bilinguisme en principe, c'est pas une erreur hein, pour autant.
Ah non, c'est pas une erreur. Hein. En Louisiane, la langue est très mouvante.
Bilingualisme. Merci beaucoup Anaïs Renevier pour votre reportage hier et aujourd'hui dans 64 minutes sur TV5 Monde.
Et oui, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième émission du mois de la francophonie. Célébration. Et un immense merci à tous nos invités, les médias partenaires qui nous soutiennent dans cette aventure. Aventure merveilleuse, intercontinentale. Bravo à Marcel Lynn pour le beau succès de la projection du film Simone, le voyage du siècle, salle comble. C'était le 8 mars, afin de marquer la journée internationale des droits des femmes. Bravo. Et ne manquez pas les rendez-vous de notre nouveau partenaire, la compagnie Théâtre à Créole. Tout un programme, tout au long du mois de mars. Et puis, les belles rencontres et les conférences de la Société d'Histoire qui vous attendent. Et oui, Muse, Musique, Amusement. C'est le mercredi 22 mars à 19h au Théâtre de l'Alliance Française. Tous les détails d'ailleurs sur le site de l'Alliance Française avec Dina Gontard. À ne pas manquer. Et l'Art Copte. Nouvelle activité de la Société d'Histoire, c'est le voyage de la Sainte Famille en Égypte vu par des artistes coptes, prévu pour le 25 mars à 14h à l'église copte orthodoxe Saint-Moses et Sainte-Catherine à 557 rue Bathurst à Toronto. Et la conférencière est Hélène Moussa. Tous les détails sur sht.ca ou popourichaud.com. Et dimanche prochain, nous recevrons peut-être des étudiants participant à la grande franco-torontoise, le concours Ma thèse en 180 secondes de l'ACFAS à Toronto. Très beau projet. 21 mars dès 17h30 au collège Massé de l'Université de Toronto. Tous les détails sur notre site. Et en dernière heure, une grande voix de la francophonie du Québec, professeur, auteur, diplomate, ancien secrétaire général de l'OIF. Mais qui est-il? À découvrir absolument dimanche prochain, ne pas manquer, madame, monsieur. C'est à notre façon pour célébrer la journée internationale de la francophonie, comme vous le savez, à chaque année, c'est le 20 mars. Et nous serons à l'antenne le 19, donc dimanche prochain. Et merci à Stéphane Cormier des éditions Prise de Parole pour ces belles découvertes littéraires. Je vous invite à découvrir le dernier ouvrage queer de Xavier Gould, originaire de Chédiac, Des fleurs comme moi, à retrouver sur le site éditionsprisedeparole.ca. Merci à DJ Devera, un immense merci à tous les Français de la région de Toronto qui nous ont partagé leur colère, leur déception suite à tout ce qui se passe au Consulat général de France de Toronto. Et je vous souhaite une excellente semaine. Que la force soit avec vous. Bon mois de la francophonie. Gagnez vos billets pour le grand spectacle de la Compagnie Créole le 28 mars à Toronto. Une première. Écrivez-moi immédiatement popourri@cut.fm. J'ai quelques paires de billets pour vous. Et voici justement un avant-goût de la fête qui vous attend. Allez, ciao, ciao, ciao.
Swing it.